La suite des matins avec la revue de presse internationale de Camille Magnard. Bonjour Camille. Et
bonjour.
À côté de vous vient de s'installer Boualem Sansal, écrivain algérien dont le livre « Le train d'Erligène ou la métamorphose de Dieu » vient de paraître chez Gallimard. Je dis que Boualem Sansal est dans ce studio parce que vous voulez débuter par l'Algérie, pays qui est confronté à une épidémie de choléra, une maladie qui n'avait plus sévi dans ce pays depuis le milieu des années 90, Camille.
Dans les années 90, oui, on était à l'époque au cœur des années noires en Algérie, et à en croire les journaux algériens, le retour du choléra en 2018 est vécu comme un signe de régression sanitaire et sociale. Le magazine Jeune Afrique fait le point sur les quelques 64 contaminations confirmées, dont 11 rien qu'à Alger, mais plusieurs sites d'infos algériens comme Réalité Online font état d'une troisième personne décédée dans la région de Blida ces derniers jours. Blida, c'est la seule région où l'épidémie progresse toujours, à en croire les communiqués qui se veulent rassurants des autorités. Mais comme nous le dit l'Algérie numérique, ça n'empêche pas la psychose de s'installer, tant la parole officielle semble peu crue. À lire dans le quotidien El Watan, la responsabilité des autorités algériennes pointée du doigt au-delà des promesses intenables d'éradiquer le choléra sous 3 jours. Ce qui est reproché au ministre, c'est de ne pas arriver à identifier l'origine de la contamination, élément indispensable pour la combattre et surtout pour calmer les craintes irrationnelles de la population. Toujours dans El Watan, ces propos d'un grand épidémiologiste algérien pour qui l'épidémie était prévisible depuis en fait le mois de janvier, le retour du choléra a longtemps été caché, présenté comme une simple toxi-infection. On ne sait même pas si ce mot existe vraiment. Le médecin reconnaît que pour les politiques, il n'était pas facile de reconnaître que le choléra était de retour plus de 20 ans après son éradication, mais conclut-il, il aurait été plus sage de penser aux vies humaines plutôt qu'à l'aspect politique. Le média en ligne Tout sur l'Algérie, lui, accuse le gouvernement de faire oublier ses responsabilités en culpabilisant le citoyen, référence à une campagne de communication lancée hier sur le nettoyage de l'environnement. La ministre Zerouati y a dénoncé l'incivisme des Algériens en matière sanitaire, leur manque de sens de l'environnement, référence au problème de gestion des ordures, une prérogative des responsables politiques avant d'être celle des citoyens, rappelle le journal.
Peut-être avant de parler littérature, Boualem Sansal, une réaction à ce que vient de dire Camille Magnard.
Ben c'est un tout petit bout de la réalité, en fait, en Algérie depuis quelques années, du fait qu'on a un gouvernement qui ne gouverne pas, un président qui ne préside pas. Nous avons une inflation de toutes sortes de mots, les trafics, les épidémies, les maladies. Il y a un système sanitaire qui est complètement détérioré. On est face à une crise financière qui fait que on ne peut pas renouveler la machine. Il y a l'incivisme, ça c'est vrai, mais c'est un incivisme qui est une réaction à l'état d'abandon. C'est un peu ce qu'on voit dans les banlieues ici, les gens se sentent un peu abandonnés, ils ont tendance à surréagir toujours, à brûler des bagnoles, à des trucs comme ça. Voilà.
On vous retrouve dans quelques instants, Boualem Sansal. Ailleurs, en Écosse, Camille Magnard, le gouvernement de Nicola Sturgeon lance un plan pour que toutes les lycéennes et étudiantes aient accès gratuitement à des tampons et serviettes hygiéniques. Mais ce n'est déjà plus ce qui fait la une dans la presse écossaise, Camille.
Et pour cause, un séisme politique accapare toute l'attention des Écossais.
I truly love the SNP and the wider independence movement in Scotland. They have been the defining commitment of my life. But today I've written to the national secretary of the party, resigning my membership. I read carefully Nicola Sturgeon's statement on Sunday
extrait d'une vidéo du site du journal The Scotsman à retrouver sur franceculture.fr.
On va faire en sorte que cette vidéo s'arrête, voilà.
On va l'arrêter, on l'entend encore un petit peu derrière nous,
mais
il n'y a pas de problème.
Voilà,
c'est une vidéo à retrouver sur franceculture.fr. La voix, c'est celle d'Alex Salmond, ancien Premier ministre d'Écosse, figure de la lutte pour l'indépendance, à la tête pendant des décennies du SNP, le parti nationaliste dont il a donc démissionné mercredi. Alex Salmond, rattrapé par des accusations de harcèlement sexuel du temps où il dirigeait le gouvernement écossais. Il prend ses distances avec son parti qui est aussi, il faut bien le dire, celui de l'actuel Premier ministre. Vous comprendrez pourquoi en lisant The National, où Salmond explique qu'il veut mettre la cause de l'indépendance avant son cas personnel, éviter les divisions dans son camp. Mais le problème, analyse The Telegraph, c'est que ce scandale naissant fragilise et divise déjà le SNP, en particulier parce que Alex Salmond a décidé de lancer un crowdfunding, un appel aux dons en ligne pour faire payer ses frais de justice, ses frais d'avocat. Il a déjà récolté plus de 60 000 livres sterling depuis hier soir, mais cette attitude lui est beaucoup reprochée. Dans le Guardian à Londres, en particulier, l'éditorialiste Suzanne Moore regrette cette stratégie de Salmon d'utiliser le crowdfunding, dit-elle, c'est pas facile à dire, pour mettre en scène son pouvoir, son influence. Ça envoie le message déplorable, selon l'éditorialiste, selon lequel il est plus important de préserver la réputation du grand homme que d'écouter la parole des femmes.
Et une parole de femme qui porte Camille tout particulièrement en ce moment, c'est celle de la championne américaine de tennis, Serena Williams.
Plus de 20 ans qu'elle écume les tournois du Grand Chelem, dont elle détient d'ailleurs le record absolu de victoires cumulées, et à la voir en une du Time Magazine cette semaine, on comprend que Serena Williams est bien plus désormais qu'une sportive hors norme. La jeune femme, toujours au sommet mais transformée au regard du monde depuis qu'elle a donné naissance à une petite Olympia et qu'elle est revenue sur les cours début août. On la retrouve, vous le lirez notamment sur CNN.com, porte-étendard des jeunes mères quand elle parle librement de ses angoisses post-partum, de la manière dont elle a réussi à reprendre le contrôle de son corps. C'est d'ailleurs ce qui lui vaut de faire la une cette semaine. Serena Williams portait pour son retour en compétition une combinaison intégrale, combinaison noire très moulante, conçue, a-t-elle expliqué, pour réduire les risques de formation de caillots sanguins, car elle a failli mourir après son accouchement d'une embolie pulmonaire mal détectée. Sauf que cette tenue, dont elle disait aussi qu'elle la faisait sentir comme une combattante, une super-héroïne, d'ailleurs inspirée par le super-héros Black Panther, ça renvoie aussi à un message d'affirmation des Afro-Américains, sauf que cette tenue donc a été jugée irrespectueuse du jeu et de la compétition par la Fédération française de tennis. D'ores et déjà, elle a indiqué que cette combinaison serait bannie de Roland-Garros l'an prochain. Un nouveau code vestimentaire sera d'ailleurs imposé aux joueuses pour l'occasion. La question du corps des femmes et des femmes noires en particulier est au cœur des débats dans le monde de la balle jaune et bien au-delà. Le passionnant article de Lily.com explore toutes les facettes féministes, raciales, sociales, historiques, toutes ces dimensions qui font de Serena Williams bien plus qu'une immense joueuse de tennis.
Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale. 7h43 sur France Culture, la suite des matins.